Le dévoilement de Dieu numéro 150. Épître écrite. L'attitude exprimée. 5 avril 2020. Pasteur Brian Kozurek. Ce matin, nous continuerons notre étude de la prédication de frère Branham, le dévoilement de Dieu, et ce sera le numéro 150 de notre série. Pour commencer, prenons le paragraphe 138. Où frère Branham cite l'apôtre Paul, dans 2 Corinthiens, le 3e chapitre et les versets 3-3. Maintenant, lisons, alors que frère Branham se réfère à ces versets et voir ce qu'il en dit. Remarquez, que frère Branham dit ici, 280 vous êtes des épîtres écrites, lues de tous les hommes. Où vous êtes. Je traduis cela. Je formule comme ceci. Voyez-vous? Je formule cela autrement. Simplement, vous êtes des épîtres qui ont été écrites. Parce qu'on n'a émis peut rien y ajouter. Qui sont lues de tous les hommes? La parole de Dieu manifestée. En d'autres termes. Pierre et Jean. Pour vous montrer, quand ils sont allés là-bas. On a vu que c'était des gens du peuple sans instruction. Ils n'avaient pas d'instruction, mais on les a reconnus pour avoir été avec Jésus. Voyez, ils étaient les gens du peuple sans instruction, mais ils étaient des épîtres écrites. Voyez-vous, lu, comme quoi ils avaient été avec Jésus. En effet, Jésus se manifestait à travers eux. Christ voyait dans leur chair, manifesté, vivifié. 281 comme il l'était dans Moïse. Maintenant, j'aimerais lire pour vous, dans 2 Corinthiens 3, où l'apôtre Paul dit exactement ce que frère Branham nous dit ici. Ainsi, commençons au verset 1. Commençons-nous de nouveau à nous recommander nous-mêmes? Ou avons-nous besoin, comme quelques-uns, de lettres de recommandation auprès de vous, ou de votre part? Maintenant, que veut-il dire ici? Commençons-nous de nouveau à nous recommander nous-mêmes? Que veut dire ce mot recommander? Parce que si nous ne savons pas ce que signifie le mot recommander, alors, nous n'avons aucune idée de ce que Paul nous dit ici. Ainsi, nous découvrons que le mot recommander a été traduit du mot grec sunistao, lequel est une combinaison de deux mots grecs. Suni qui signifie associé avec, ou compagnon de, et le mot stao ou para, qui se rapporte à environ, amenant à une proche approximation. Mis, ensemble, cela parle de citer ou nommer avec une louange spéciale ou approuver en d'autres termes, une lettre de recommandation d'un certain groupe ou association. Raison pour laquelle, l'apôtre Paul, après avoir dit cela, commençons-nous de nouveau à nous recommander nous-mêmes? Il pose la question pour amener les gens à savoir que cela n'a rien à voir avec nous ou un groupe auquel nous appartenons. Car il ajoute, où avons-nous besoin, comme quelques-uns, de lettres de recommandation auprès de vous ou de votre part? Ainsi, Paul dit qu'il ne s'agit pas de s'identifier avec un groupe ou une organisation, comme je l'ai vu, même dans ce message. Maintenant, c'est compréhensible que vous, Néhémie, puissiez prêcher dans une église baptiste, sans avoir les autorisations de la hiérarchie baptiste. Vous pouvez soit avoir des titres comme da, d, philippiens.d, ll, d, docteur en littérature, docteur en divinité, etc. Et vous avez besoin de la lettre de recommandation de l'organisation pour prouver que vous êtes en bonne position. Mais ce n'est qu'une organisation, et quand vous l'organisez, c'est à la minute que vous mourrez. Frère Branham dit cela et je l'ai toujours cru. Et ce qui m'a surpris en 2001, j'ai tenu des réunions aux Philippines, et j'ai découvert que pendant que j'étais là, qu'ils avaient plus de 100 ministres enregistrés en ce moment-là, dans une organisation des ministres du message. J'ai dit aux frères, enlevez vos noms de ce document. Frère Branham a dit que l'organisation Esther, la marque de la bête, dans sa prédication, essayant de rendre à Dieu, un service 27 novembre 1965 p. 35, il dit, maintenant, et quand je parle des dénominations, je n'y veux pas paraître cruel et, non, je n'y dis pas que vous n'y devriez pas, vous rendre à votre église. Allez dans votre église, c'est-à-dire ce que vous êtes censé faire. Mais Néhémie, vous joignez pas à ces organisations, parce qu'un jour, je vous le dirai et le prouverai par l'écriture, que c'est-à-dire la marque de la bête. Et souvenez-vous simplement, que c'est-à-dire la marque. Et dans la prédication, la puissance de Dieu pour transformer 11 septembre 1965 p. 135, il dit, 135 eh bien, cela n'a jamais été pardonné, ce péché n'a jamais été pardonné. Les semences sont pourries juste dans l'exercice du devoir, pendant qu'ils étaient en route vers la terre promise. Chacun d'eux a péri et a pourri, en plein dans l'église, dans la ligne du devoir, en suivant Dieu, ils ont laissé Satan les asperger de ce spray liquide projeté en fines gouttelettes par pulvérisation tirée n.d.t. intellectuelle, cette conception intellectuelle, de l'instruction disant, eh bien, nous sommes tous un même peuple, nous sommes tous des enfants de Dieu. Vous n'y l'êtes pas. 136 mais la laisser ce faux docteur-là les vaporiser avec sa conception intellectuelle de la chose. Et c'est-à-dire exactement ce que fait en ce moment même le conseil écuménique. Vous voyez? La même chose, eh bien, mettons-nous tous ensemble dans une grande organisation. Tout votre système organisationnel est-à-dire du diable. C'est-à-dire la marque de la bête dont il est-à-dire question dans la Bible. Le Seigneur voulant. Et à la minute où vous vous organisez, vous mourrez spirituellement. Le prophète de Dieu l'a dit, et l'histoire prouve que c'est ainsi. Dans sa prédication, l'Église choisissant la loi au lieu de la grâce 16 mars 1961 p. 51 que faisait-il? Ils discutaient continuellement sur leur doctrine si bien qu'ils sont restés là jusqu'à ce qu'ils soient morts. Et c'est ce qui s'est passé en ce jour même. Ils sont morts. Mort avec leur organisation. J'amènerai n'importe quel théologien au, pour citer ceci, un historien. J'en connais deux bons qui sont assis ici même maintenant, aussi valables que ceux que compte la nation. Je demande à n'importe quel historien de me dire si chaque fois que Dieu était à l'œuvre dans un réveil, les signes surnaturels suivaient. Quand a-t-il déjà agi sans que le surnaturel Néhémie suive? Et quand est-il déjà arrivé que les gens organisent cela en une organisation sans que cela Néhémie meure et Néhémie se relève plus jamais? Montrez-moi une seule fois où une organisation s'est relevée, pour revenir à son point de départ. Elle est morte aussitôt qu'elle s'est organisée. C'est ce qu'ont fait les pentecôtistes. Vous les vieux batailleurs là-bas qui aimez bien dire, Alléluia. Nous n'avons rien à voir avec cette vieille nouvelle branche. Gloire à Dieu. Cela nous est donné par prophétie. Alléluia. Nous n'aurons rien à voir avec les assemblées ou les unitaires, l'un ou l'autre. Alléluia. Nous sommes différents. Ils sont morts. Ça. Ce n'est pas mâcher ces mots. Et ils sont morts. Ils ont été éliminés. Il est resté là et les a laissés mourir jusqu'à ce qu'ils soient tous morts. Et je pense que cela s'est répété encore. Pourquoi? C'est le modèle. Dans sa prédication, paradoxe 18 avril 1964 p. 72. Frère Branham dit, ce n'est pas parce que je veux être singulier. Si c'est le cas, alors je suis un hypocrite. Dieu n'accomplira donc jamais ces choses au travers d'un hypocrite. Dieu s'identifierait là un hypocrite? À Dieu Néhémie plaise. Ça doit être la vérité. Mais si nous pouvons tout simplement nous secouer une minute et prendre conscience. Et Néhémie pensait pas que, si Esther un certain homme, un homme n'a rien à. 1. Dieu doit choisir quelqu'un. Maintenant, vous les historiens qui êtes ici, Dieu a-t-il déjà utilisé une organisation? Jamais. Eh bien, j'aimerais vous poser une autre question. Quand un homme se levait avec un message, et que cette organisation se organisait après ce message, elle mourait sur le champ. Et Dieu la mettait au rencard. Et elle n'y revenait plus jamais à la vie. Maintenant, posez-vous cette question. Ainsi, quand nous avons des ministres dans ce message, qui se sont organisés en des organisations des ministres, ils ne le font pas pour être en erreur. Ils le font parce que leur gouvernement leur dit qu'ils doivent se retrouver dans une organisation ou alors ils ne peuvent avoir d'église. Bien, vous allez obéir à l'homme ou à Dieu, mes frères et sœurs. Qu'en adviendra-t-il? Vous vous organisez et vous mourrez juste là. Ainsi, à quoi cela sert de s'organiser et rester ouvert, si vous devez mourir en le faisant? Ce n'est pas seulement aux Philippines, frères et sœurs, c'est à travers toute l'Afrique aussi, et à travers toute l'Amérique du Sud. Les gouvernements exigent une dénomination, pour que vous soyez une église. Alors, qu'allez-vous faire? Prenez la marque de la bête, afin que vous puissiez jouer à l'église? Je n'aimais le pense pas. Mais ils le font. Et n'aimais soyez pas aussi opiniâtre, pour penser que cela n'aimais se fait pas ici aux États-Unis. Si vous n'êtes pas associé avec ce groupe-ci, ou ce groupe-là, vous n'êtes pas la bienvenue de venir et prêcher à leur congrégation. Et pire encore, j'ai rencontré des ministres qui font partie des groupes d'assurance des ministres dénominationnels. J'avais un frère, qui m'avait dit, lors d'une réunion des ministres, au sujet de son assurance, qui lui avait épargné $100,000, quand sa femme devait subir une grande opération chirurgicale. Ainsi, quand je suis rentré à la maison, j'ai appelé cette agence d'assurance ministérielle et leur ai demandé de m'envoyer des informations à ce sujet. Et savez-vous quoi? Il fallait signer un papier disant que vous croyez dans la Trinité pour bénéficier de cette assurance. Et ainsi, j'ai demandé au ministre, j'ai dit, « Comment peux-tu signer cela ?» Et il a dit, « C'est juste un morceau de papier. » En réalité, je n'y crois pas, mais j'avais besoin de l'assurance. Et ainsi, ils ont pris consciemment la marque de la bête, juste dans ce message et ils ne le réalisent pas. Nous avions reçu en visite, un ministre de la RDC, il y a quelques années, comme il l'avait dit, mais quand il est arrivé, il a dit qu'il voulait rester. Ainsi, nous avons essayé de l'aider avec les documents, mais le gouvernement des États-Unis nous a dit que nous devions être une dénomination pour sponsoriser le frère. J'ai dit au frère qu'il n'y avait rien à faire. Je n'ai pas signé ses papiers et mentir au gouvernement, et il a dit, toutes les autres églises le font. Et j'ai dit, bien. Je ne m'y suis pas toutes les autres églises. Je suis redevable envers Dieu, et non envers les hommes. Ainsi, vous voyez, leurs consciences ont été embrouillées, et ils agissent mal acquis de manière consciente et pourtant, ils n'y pensent pas. Le vieux proverbe dit, les insensés marchent avec des chaussures cloutées, là où les anges ont peur de marcher. Ainsi, Nous voyons Paul nous dire que nous n'y faisons pas ce que le monde fait, et ainsi, nous n'avons pas besoin des lettres de recommandation de quiconque ou d'un groupe, mais il dit plutôt, de Sester vous qui êtes notre lettre, écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. En d'autres termes, si quelqu'un veut savoir ce que je prêche, laissez-les vous regarder. Parce que vous êtes un reflet de mon ministère. Vous êtes vous-même notre lettre de recommandation, notre crédit, écrit dans vos cœurs, pour être connu, perçu, reconnu et prête pour tous. Et ensuite, il dit. 3. Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Ainsi, il dit, Dieu n'est pas intéressé par votre curriculum vitae, il n'est pas intéressé par votre cursus, mais il voit votre vie, et l'expression vivante de ce que vous êtes. Ainsi, vous êtes l'épître de ce qui est manifestement déclaré dans votre vie. En d'autres termes, vous montrez avec évidence que vous êtes une lettre de Christ, délivrée par nous, qui n'est pas écrite avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non pas sur les tablettes des pierres, mais sur les tablettes des cœurs humains. Parce que vous êtes vous-même un reflet vivant de Christ. Et parlons-en. De même que nous avons une nation, pleine de ce qui est plérino, qui signifie républicain de nous seulement, ainsi aussi, nous avons une nation pleine des gens, qui se promènent avec l'identité chrétienne, mais n'ayant ils sont pas plus chrétiens qu'un homme qui provient d'un chimpanzé. Question et réponse sur l'image de la bête 15 mai 1954 p. 32 appartenir à l'église baptiste ou méthodiste. Néhémie fait pas de vous un chrétien. Il n'y a qu'une seule manière pour être chrétien. Le mot chrétien signifie comme Christ. Et, vous Néhémie pouvez pas le faire, vous Néhémie pouvez pas le produire par vous-même, il n'y a pas moyen du tout que vous le fassiez. Vous devez vous oublier, mourir en vous-même, et laissez Christ entrer et vivre la vie de Christ en vous. Et dans la prédication, un absolu 1er décembre 1963 MP, 49. Frère Branham dit, maintenant, l'homme agit correctement à ses propres yeux, mais Dieu a une voie pour lui, pour le faire. Voyez, quand Dieu et sa parole et ses prophètes étaient rares, chacun faisait ce qu'il voulait. Et c'est ce qui se fait aujourd'hui. Chacun dit, j'appartiens à ceci, êtes-vous chrétien? Je suis un presbytérien. Êtes-vous chrétien? Je vous demande. Une fille a dit, je veux que vous compreniez que je brûle un cierge chaque soir. Une autre personne est liée à son organisation, ses dogmes. Mais un chrétien signifie comme Christ, et la seule manière pour vous d'être comme Christ, Esther que Christ, la parole, soit en vous. C'est Esther l'absolu. Oui. J'ai compris cela, avant d'être converti, et je suis heureux que Dieu ait pris possession de moi, avant que l'Église l'ait fait. Moi, aussi. Mais nous avons en excès 2,5 millions de personnes, qui prétendent être l'épouse de Christ, prétendent en suivre ce message. Ainsi, quelque chose n'y marche pas, frères et sœurs. Quand je dis que je doute que 10% des gens qui sont sous les galets de Malachie 4, n'y sont même pas chrétiens, je n'essaie pas de paraître spécial. Je suis en réalité un peu généreux. Cela voudrait dire que 250 000 personnes sont des chrétiens. et je suis tout à fait dans l'erreur quand je déclare cela. Et si 1% sont des chrétiens, et ce serait très généreux, 25 000. Et pourtant, comment cela serait-il possible, quand le prophète de Dieu parle d'un sur 1 million? Ainsi, revenons en arrière. S'il y a 1,5 billion de soi-disant chrétiens, de tous les groupes, qui prétendent être chrétiens, alors, 1 sur 1 million, donnerait 1,500. Et cela se rapproche du nombre que frère Branham a donné, qui participerait à l'enlèvement. Maintenant, il n'y avait pas beaucoup de ces soi-disant chrétiens dans le monde en 1960, parce qu'il n'y avait que 3 billions des gens dans le monde entier en 1960, où il y a 7,7 millions aujourd'hui. Ainsi, je pense que vous saisissez où je veux en arriver. Ce n'est pas ceux qui disent Seigneur, qui entreront, mais celui qui fait la volonté de mon Père. Jésus a dit. Comme Paul dit, 4-5, cette assurance-là, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Et c'est là où nous devons le placer. Paul nous dit dans Philippiens 2:13, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Ainsi, s'il a commencé la bonne œuvre en vous, il l'achèvera. Ainsi, le contraire est que s'il n'est pas en vous, crée en vous, à la fois, le vouloir et le faire, alors il n'est pas en vous, pour accomplir son bon plaisir. Ainsi, s'il n'est pas en vous, alors vous n'aimez lui, appartenez pas. Alors, vous n'avez pas de chance. Ensuite, Paul ajoute, si s'il nous a aussi rendu capable d'être ministre d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Ainsi, si la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Ainsi, qu'importe le nombre de fois que vous lisez votre Bible ou appuyez pour écouter une bande, à moins que vous n'ayez le Saint-Esprit, vivant au-dedans et à travers vous, vivant votre vie, à votre place, vous êtes perdu. Alors, Paul dit, 7-8, or, si le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres, ce sont vos 10 commandements sous Moïse, a été glorieux, au point que les fils d'Israël Néhémie pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse, à cause de la gloire de son visage. Bien que cette gloire fût passagère, combien le ministère de l'esprit Néhémie sera-t-il pas plus glorieux? En d'autres termes, si la gloire de la doxa de Dieu était si grande dans ses 10 commandements, au point que Moïse s'est tenu dans la présence de Dieu pendant 40 jours, les écrivant, et quand il est descendu, son visage brillait de la présence de la Shekina de Dieu, combien plus ce sera quand le Seigneur descend lui-même avec un cri, qui est le message, qui est sa gloire, sa doxa, ses opinions, ses valeurs et jugements? Combien grande sera cette administration de l'Esprit, dans une plus grande mesure, pour que vous et la parole deveniez un et vous deviendrez non seulement une épître mais une épître vivante, connue et lue de tous les hommes, quand les fils de Dieu seront manifestés comme des fils de Dieu. 9. Si le ministère de la condamnation était glorieux, le ministère de la justice est juste. Sagesse est de beaucoup supérieure en gloire. 10-12. Et, sous ce rapport, ce qui a été glorieux Néhémie l'a pointé, à cause de cette gloire qui lui est supérieure. En effet, si ce qui était passager a été glorieux, ce qui est permanent est bien plus glorieux. Ayant donc cette espérance, nous usons d'une grande liberté. Ainsi, laissez-moi vous le présenter de cette manière. Si les 10 commandements étaient une chose si glorieuse, que Moïse avait reflété la présence de Dieu à travers son visage, combien plus glorieux en sera-t-il quand un groupe entier des gens au temps de la fin sera conforme à l'image du premier-né et manifesté comme des véritables fils de Dieu doivent l'être. Ainsi, c'était une personne, un prophète de Dieu, mais en ce jour, ce n'est pas juste une seule personne, mais un peuple entier, qui sont conformes à l'image du Fils premier-né. Et juste comme au temps de la moisson, il doit y avoir une première offrande agitée, nous savons qu'à chaque moisson, le fermier prend un échantillon de son champ et quand il est séché et devient mûr, il est prêt pour la moisson, alors il moissonnera toute la récolte. Mais nous devons demeurer dans la présence du Fils pour mûrir. C'est ce qu'il nous a été dit de faire par le prophète de Dieu, de manière courte, avant qu'il n'ait mis quitte la scène. Ainsi, Paul dit, 13:15 et nous n'ayons mis, faisons pas comme Moïse, qui mettait un voile sur son visage, pour que les fils d'Israël n'aient mis, fixassent pas les regards sur la fin de ceux qui étaient passagers. Mais ils sont devenus durs d'entendement. Car jusqu'à ce jour le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament, et Néhémie se lève pas, parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur, et ce voile était les traditions et les credos, qui avaient aveuglé les gens à la réflexion oméga. Mais quand Paul dit, 16:18 mais lorsque les cœurs, la compréhension, se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est les libertés. Nous tous qui, le visage découvert, nous contemplons comme avec un miroir, comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Doxa, contemplant les opinions, les valeurs et les jugements du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, d'opinion en opinion, de valeur en valeur, de jugement en jugement, comme par le Seigneur, l'Esprit. Par conséquent, si l'Esprit du Seigneur le fait, alors, c'est ce Dieu qui crée en nous, à la fois, le vouloir et accomplir son bon plaisir. C'est ce Dieu qui œuvre en vous. C'est doxa, ses opinions, ses valeurs, ses jugements. Et ensuite, vous atteignez son image, et vous êtes conforme à son image. Car même Jésus a dit, que la doxa de Dieu, entre en nous. Cela fera de nous un avec Dieu, de la même manière que lui est Dieu, était un. Jean 17:21-22 On ne me dira point, il est ici, ou, il est là. Car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Et il dit aux disciples, des jours viendront où vous désirerez voir l'un des jours du Fils de l'homme, et vous ne me le verrez point. Remarquez, comment William Branham dit la même chose au paragraphe suivant, Numéro 281, comme il l'était dans Moïse. Quand la parole était dans Moïse, il était Dieu en chair. Quand elle, la parole, était dans Jésus, c'était Dieu en chair. Voyez, tout ce qu'il a fait, c'est changer son masque, pas sa parole, pas sa nature. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il a seulement changé de forme. Il est passé de Noé à Moïse. Il est passé de Moïse à David, de David, Joseph, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il en vienne à la plénitude de la divinité corporellement. Voyez. 282 sester encore le même Dieu. Amen. Amen. J'espère que ceci ester reçu. Voyez. Sester le même Dieu. Mais il revint notre voile. Sester tout. Voyez-vous? Il met un autre voile. 283 Il l'a fait chez les réformateurs. Il a revêtu un voile, jusqu'à ce que finalement, après avoir traversé l'âge de Luther, traversé l'outrage, finalement, ce qui émerge, c'est à la totalité. Juste avant cela, un prophète apparaît, de nouveau. Ça. Sester pour préfigurer la parole. En montrant ce qu'il en a été. En révélant ce qui a été fait. Ce qui a été laissé en suspens. Pour que l'Église soit sans. Néhémie soit pas sans comprendre. Ensuite. Quand ceci disparaît peu à peu. Alors. Comme Jean l'a dit, il faut que je diminue. Il faut qu'il croisse. Alors le tout en tout entre en lui. Il est ester pleinement manifesté. Il est ester passé de Luther, Wesley, l'âge pentecôtiste, et, de l'un à l'autre, il est ester pleinement manifesté. Vous voyez? L'enchaînement. Simplement la manifestation. Dieu qui se dévoile. Voyez? Voyez-le maintenant. Remarquez. Entièrement réalisé dans les promesses qu'il avait faites pour ce jour-ci. Comme il en avait été des autres. 284 Or. Moïse était la parole. En ce jour-là. Parce que la parole lui a été donnée pour ce jour-là. Moïse. Joseph était la parole à son époque. Il était à l'image de Christ. Tout à fait. Voyez-vous. Chacun d'eux était la parole. 285 Et quand Jésus est revenu, il était la parole dans sa plénitude, parce que tout le plan de la rédemption reposait en lui. Tout le plan de la rédemption Néhémie reposait pas en Moïse. Néhémie reposait pas en Joseph. Néhémie reposait pas en Élie. Voyez-vous? Eux, ils étaient seulement une partie de la parole. Ils annonçaient ce qui allait venir. Voyez? Maintenant, remarquez, gardez cette pensée en tête, là, je vais lancer quelque chose, comme je dis. Voyez-vous, tout le plan n'était pas en eux. Ils annonçaient ce qui allait venir. 286 Par conséquent, après lui, la plénitude, nous Néhémie pouvons pas annoncer autre chose à venir. Il s'agit d'annoncer celui qui est déjà venu, la parole. Frère Branham prend sa Bible. Tirez-en-de-e, ceci est la révélation complète. On n'y peut rien y ajouter ni rien en retrancher. Voilà la révélation complète. Tout cela, c'était une ombre de celui qui allait venir, mais quand il est venu, il était le parfait. Hébreux 1. Dieu, à plusieurs reprises, a parlé au Père par les prophètes. Dieu a parlé à travers des voiles, les prophètes, mais, en ces derniers jours, par son Fils Jésus-Christ, vous y êtes dévoilé, là au calvaire, le Fils de Dieu, dévoilé. 287 Remarqué, vivifié. Et, aujourd'hui, quand la parole est manifestée dans des vases humains, des voiles, il s'agit absolument de la parole qui s'accomplit dans ce jour-là, ce qui correspond à Dieu. En entrant en lui par le baptême, conformément à 1 Corinthiens 12, nous sommes alors identifiés avec lui. Amen. Remarquez, il utilise ici la forme plurielle, montrant qu'en ce jour, il Néhémie s'agit pas seulement d'un individu, au travers de qui, la parole doit se manifester, mais dans des vases. Au pluriel. laissez-moi le présenter comme ceci. William Branham, un vase, un prophète pour l'âge. Jamais deux. Un. Maintenant, il manifeste Malachie 4, Luc 17, 30, Apocalypse 10, 7, etc. Mais c'était le premier fruit pour cette heure. Il y a d'autres écritures qui doivent aussi bien être manifestées en cette heure. Éphésiens 1, 3-5. Les fils de Dieu se sont préparés pour l'adoption. Comment? Par la conformité à l'image du Fils premier-né. Esther Romains 8, 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin qu'il soit le premier-né d'entre plusieurs frères. Maintenant, il ne s'agit pas d'une seule personne, mais des fils au pluriel. Et ainsi, cette manifestation Esther des élus du temps de la fin, qui sont dirigés vers le Fils premier-né, Christ, qui est Esther le modèle pour tous les fils, et c'était le prophète de Malachie 4, dont le ministère a ramené les cœurs messages de Paul, les pères. Philippiens 2, 1-8. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Néhémie, faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayant-vous les sentiments, cette attitude, qui était en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est-il dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. La Bible amplifiée le traduit comme suit. Laissez que cette même attitude et but et simplicité de cœur être en vous, lesquels étaient en Jésus-Christ, laissez-le être votre exemple dans l'humilité. Le NIF le traduit comme suit. Dans vos rapports, les uns, les autres, ayez les mêmes sentiments, et comme Jésus-Christ. Ainsi, nous voyons que la pensée ou l'état d'esprit qui était en Christ, Esther la même attitude exprimée en nous. Ainsi, il y a cinq points à considérer, quand nous pensons à notre attitude et comment elle reflète l'attitude de Christ ou pas. Ainsi, avant que nous n'ayons conclu, je veux vous montrer les éléments ci-dessous, concernant le fait d'avoir l'attitude de Christ. 1. Je veux montrer ce que signifie avoir bonne attitude mentale. 2. Je veux montrer pourquoi nous devons avoir la bonne attitude mentale. 3. Je veux montrer ce que produira la bonne attitude mentale. 4. Je veux montrer comment notre attitude mentale affecte notre entourage. 5. Je vais montrer comment une mauvaise attitude peut estropier notre marche et la marche de ceux sur qui nous avons de l'influence. Maintenant, pour commencer, nous devons savoir premièrement ce qu'est une bonne attitude mentale. Et pour le savoir, nous devons premièrement comprendre ce qu'est une attitude. 1. Que signifie avoir une bonne attitude mentale? Maintenant, dans le dictionnaire Webster, mon nouveau, définit l'attitude comme une aptitude, ou une inclination, et un état avancé, la position ou posture adoptée par le corps, en relation à une action, sensation, ou ambiance. etc. Le mot attitude est aussi défini comme une manière d'agir, sentir ou penser, qui montre une disposition ou une opinion. Maintenant, si vous tirez les points principaux dans chacune des définitions, la première montre que l'attitude est la posture ou la position du corps en rapport à ou en connexion à une action, sentiment, ou ambiance. Et l'autre est l'action, sentiment ou pensée, qui montre votre opinion, disposition ou état d'esprit. Ainsi, nous regardons à la position ou la posture du corps, et ses attributs qui montrent quand vous pensez, sentez, ou qui exprime votre ambiance. Ainsi, l'attitude n'est pas seulement une connaissance mentale, ou une compréhension mentale, ou une pensée mentale, mais plutôt une expression extérieure de notre disposition, c'est-à-dire une expression extérieure de nos sentiments, c'est-à-dire une expression extérieure de nos pensées, c'est-à-dire la connexion de notre corps à ses pensées, et comment le corps exprime ses pensées. C'est-à-dire ce qu'est-à-dire l'attitude. Souvenez-vous, Paul nous dit que nous sommes des épîtres, écrites dans notre chair, pour montrer au monde l'attitude de Christ. Et la clé est-à-dire de montrer comment nous le sentons, montrer ce que nous pensons au sujet d'une certaine chose, etc. La Bible nous dit que Dieu voudrait envoyer un ange pour marquer ceux qui gémissent et soupirent à cause des abominations qui se commettent dans la ville. Ce soupir et gémissement, c'est-à-dire la réaction du corps à ce qui se fait dans la ville, et c'est-à-dire une expression extérieure de ce qu'était leur attitude à l'intérieur de leur âme. Ainsi, s'il n'y avait pas d'expression extérieure de soupir et de gémissement, alors il n'y aurait pas de scellement. Souvenez-vous que le signe doit être déployé. Frère Branham dit, il ne m'y suffit pas de le croire, vous devez l'exhiber. Le signe 28 novembre 1963 SP 125, il n'était responsable de personne. Toute la famille devait être amenée à l'intérieur, et le signe devait être exhibé. Absolument. S'il n'était pas exhibé, alors cela n'avait aucun effet. Vous pouviez croire dans la chose. Vous pouviez dire, oh, oui, je crois cela. Mais cela n'y faisait pas l'affaire. Cela. Vous pourriez dire, eh bien, je vais vous dire ce que je ferai. Je vais mettre cela dans un seau que je vais déposer ici sur le mur. Mais en fait, je pense qu'aussi longtemps que je l'ai ici dedans, si j'avais le sang ici au-dessus. Non, monsieur. Vous n'y pouvez pas cacher cela. Non, non. Vous devez avoir la chose. Vous devez la mettre au grand jour. 126 C'était dans ce but-là qu'on mettait cela sur les portes, pour que lui voie cela sur le linteau et sur le montant de la porte. C'est-à-dire quelque chose dont vous n'avez pas honte. Vous voulez que le monde entier sache que vous êtes mort, et votre vie est cachée en Dieu à travers Christ. Votre attitude montre alors sur le plan extérieur ce que vous pensez à l'intérieur. Vous n'y pouvez cacher une attitude, cela montre, cela manifeste. Vous pourriez être capable de cacher vos pensées, mais une attitude va au-delà des pensées intérieures. L'attitude parle de l'expression de votre disposition. Votre attitude est exhibée par votre langage corporel, à travers vos yeux, sur votre expression faciale, sur la tonalité de votre voix, et dans votre posture. Par conséquent, l'attitude est l'expression de votre opinion et votre disposition. Maintenant, le mot disposition vient de deux mots, di et position. Ensemble, il parle de mettre en ordre et se réfère aux aspects normaux de la nature d'une personne. Ainsi, ce que nous voyons à travers l'attitude Esther, la disposition ou la mise en ordre ou le reflet extérieur de la véritable nature d'une personne. Maintenant, nous savons que l'opinion de Dieu, Esther s'adoxa, et Paul dit qu'au temps de la fin, quand son évangile sera prêché, au temps où la doxa de Dieu sera manifestée dans notre chair. C'est-ce ce que reflète votre attitude? C'est-ce la manifestation de ses opinions, non pas les vôtres? Ses valeurs, non pas les vôtres? Ses jugements, non pas les vôtres? De Thessaloniciens, 10-12, lorsqu'il viendra pour être, en ce jour-là, glorifié dans ses saints, glorifié dans ses saints. Le mot glorifié esterondoxazo, en signifiant, dans, doxa signifiant les opinions, les valeurs et les jugements de Dieu, et zozo est dans votre vie et admiré dans tous ceux qui y auront cru, car notre témoignage, le témoignage de Paul, l'évangile de Paul auprès de vous a été cru. C'est-ce pourquoi aussi nous prions continuellement pour vous, afin que notre Dieu vous juge digne de la vocation, et qu'il accomplisse par sa puissance tous les desseins bienveillants, de sa bonté, et l'œuvre de votre foi, pour que le nom de notre Seigneur Jésus soit glorifié et nos doxazo en vous, et que vous soyez glorifiés en lui, selon la grâce de notre Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. C'était à la prière de Jésus, dans Jean 17 encore. Et cela doit s'accomplir en cette heure, non seulement dans le prophète, mais dans les gens qui ont entendu, reconnu et agi selon la parole que le prophète a enseignée. Maintenant, point qu'est-ce que la bonne attitude mentale? Bien. Avoir une bonne attitude mentale signifie que vous devriez d'abord avoir des bonnes pensées sur n'importe quel sujet auquel vous pensez. Et cela signifie que vous devez avoir une bonne opinion, et il n'y a qu'une seule opinion qui soit bonne, c'est celle de Dieu. Que pense Dieu à propos? Parce que ses pensées Néhémie sont pas les nôtres, car ses pensées sont plus élevées que les nôtres, et si nous voulons avoir une bonne pensée au sujet de quoi que ce soit, ça doit être ce que Dieu en pense. Et pour savoir ce que Dieu pense au sujet de quoi que ce soit, cela doit venir à travers l'instrument de sa parole. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ainsi, si nous voulons avoir la bonne attitude, alors, nous devons avoir l'attitude qui était en Christ. L'apôtre Paul dit, Philippiens 2, 5, ayez en vous les sentiments, cette attitude qui était en Jésus-Christ. Et le mot « sentiment » ici, Esther, le mot grec phroneo, qui est Esther utilisé pour le mot même pensée. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. C'est Esther la clé que Paul nous apporte ici, et c'est Esther un don de Dieu, que seuls, ceux que Dieu choisit, peuvent recevoir ce don. Remarquez que Paul dit, maintenant, le Dieu de patience et de consolation, vous accorde d'être d'une même pensée, les uns, envers les autres, selon Jésus-Christ, et remarquez, alors que c'est Esther selon Jésus-Christ, le Jésus un. Ainsi, nous voyons que Dieu nous a donné un don, pour avoir la même pensée, et non seulement d'avoir la même pensée, mais avoir la même pensée, les uns envers les autres et remarquez qu'il a dit, selon Jésus-Christ. Maintenant, la seule manière d'avoir la même pensée, c'est d'avoir les mêmes sentiments. Ainsi, il nous dit ici la même chose que dans Philippiens 2, 5, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Et pour que cela s'accomplisse, tout ce que nous avons à faire, c'est d'aller au verset 13, où il nous dit que ce sera Dieu créant en vous. D'abord le vouloir et ensuite le faire sa volonté. Et nous savons que cela Néhémie peut arriver que de la manière que Dieu a dite, que cela arriverait. Jean 1, 12, mais à tous ceux qui l'ont reçu. Maintenant, le mot reçu ici, Esther du mot grec. Lambano. Qui signifie recevoir de quelqu'un. Prendre possession de. C'est ad et s'approprier de. Attraper chez. Courir après. Lutter pour obtenir à ceux qui croient en son nom. Elle a donné le pouvoir maintenant. Ce mot puissance. Ce n'est pas le mot grec. Dynamie. Que nous attribuons souvent à la puissance d'opérer des miracles, mais c'est le mot grec exousia, qui signifie la puissance de choisir. Ainsi, nous voyons Dieu nous donne un don, et ce don est la puissance de prendre la bonne décision. Et cette décision, est de devenir un fils, ou d'agir comme un fils, devrait agir, leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Maintenant ce mot devenir provient du mot grec gynomé, et cela ne signifie pas que vous êtes un porc, et que maintenant vous avez la puissance de devenir un agneau. Cela ne signifie pas que vous étiez une semence du diable et que maintenant, il vous a été donné la puissance de devenir une semence de Dieu. Non, cela signifie devenir accompli. En d'autres termes, Dieu vous donne la puissance de prendre la bonne décision, de devenir ce que vous avez toujours été. C'est à partir de la racine, que nous utilisons du mot gène, ou génétique. Maintenant, que nous savons ce qu'est la bonne attitude mentale, que c'est une expression extérieure de l'opinion de Dieu, vivante et s'exprimant à travers votre corps. La chose suivante, à laquelle nous devons regarder. C'est le point numéro 2. Je veux vous montrer ce que produira la bonne attitude mentale. Je suis la résurrection et la vie. 10 août 1952 AP, 61. Il s'agit de votre attitude envers cela. Votre attitude envers le don de Dieu fera que vous obteniez ce que vous demandez. Comprenez-vous? Oh! Combien j'aurais aimé m'arrêter juste ici, frère Bose, et enfoncer cela pendant environ une demi-heure. Mais je n'ai mis saurais pas le faire. Votre attitude, Dieu peut envoyer un don, et peu importe ce que vous. Cela dépend de votre attitude envers le don. Considérez ceux qui le frappèrent au visage et qui crachèrent sur lui et tout. Là, il n'y avait aucune vertu. Mais une femme qui croyait la parole, toucha le bord de son vêtement et fut guérie. Esther se juste? Très bien. Cela dépend de ce que vous en pensez. Dieu envoie cela. Mais c'est votre attitude envers tout don divin qui détermine ce que vous en obtenez. Ainsi, il. Si vous lisez Hébreux 11, que nous n'avons pas le temps de marier avec ceci, ce matin, mais le chapitre entier. Montre comment notre foi est exhibée et montre notre attitude envers Dieu et sa parole. Confirmons sa parole 26 avril 1965 p. 23. Mais avant de prier pour les malades, nous devons amener les gens dans une certaine attitude. C'est cette attitude qui amène toujours des résultats. C'est cette attitude que vous adoptez devant Dieu. Voici une femme qui a touché son vêtement, et elle a été guérie d'une perte de sang. Un soldat cracha sur son visage et lui mit une couronne d'épines sur la tête, mais il ne sentit aucune vertu. Ça dépend de votre approche. Ce qu'il faut, c'est l'attitude. Et c'est ce qu'il faut ce soir, cher ami, il faut l'attitude. 24 Nous sommes et nous croyons que nous sommes dans la présence de Jésus-Christ, mais c'est votre attitude qui produit les résultats. La mécanique est ici et la dynamique aussi. Si vous pouvez juste commencer, Dieu fera le reste. Dans Corinthiens 9, 10 parle-t-il uniquement à cause de nous? Oui. C'est à cause de nous qu'il a été écrit que celui qui laboure doit labourer avec espérance, et celui qui foule le grain foulé avec l'espérance d'y avoir part. Ici, nous voyons le fermier labourer avec espérance, s'attendant à récolter de ses efforts. Vous voyez, Quand vous semez avec une attente, vous semez avec un bon cœur et une bonne pensée, et ainsi une bonne attitude. Mais si vous y allez, sans une vraie attente, alors votre attitude le montrera. Romains 8, 24-25 Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance, ce qu'on voit. Peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous n'y voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Si vous n'aimez le voyez pas, alors, vous continuez à le croire, mais si vous l'avez vu, cela montre que votre espérance est manifestée. L'expectative 5 avril 1950 p. 13 Juste comme petit sujet, si je devais l'appeler ainsi, j'aimerais parler pendant une minute ou deux sur le mot expectative. Nous recevons toujours ce à quoi nous nous attendons. Quand les gens s'attendent à quelque chose, eh bien alors, ils obtiennent généralement ce qu'ils attendent. Ce qui compte, c'est l'attitude mentale que vous affichez. Rappelez-vous ceci, et n'aimez l'oubliez jamais. Une bonne attitude mentale envers n'importe quelle promesse de Dieu la fera s'accomplir. Une bonne attitude mentale envers n'importe quelle promesse de Dieu. Il n'y faut pas de don de guérison pour guérir les malades. Toute personne ici présente a le droit d'affronter Satan n'importe où, s'il est chrétien, et de le vaincre sur n'importe quel terrain où il peut se tenir. Quand Jésus-Christ était ici sur terre, et en lui demeurait la plénitude de la divinité corporellement, toutes les grandes puissances de Dieu étaient dans son Fils, Jésus-Christ. En effet, les Écritures nous rapportent que Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Toute chose lui a été donnée, toutefois il n'aimait disait que ce que le Père lui disait. Il n'aimait guérissait que celui qu'il avait d'abord vu être guéri. En effet, il a dit, en vérité, je vous le dis, le Fils n'aimait peut rien faire de lui-même, mais n'aimait fait que ce qu'il veut faire au Père. C'est Saint Jean 5.19. Maintenant, frère Branham dit que vous recevez ce à quoi vous vous attendez. Et vous savez que ce n'est pas étonnant que Jésus ait marché sur les eaux, parce qu'il est le Fils de Dieu. Mais ce qui est vraiment étonnant, est que Pierre était à mesure de marcher sur l'eau aussi bien, jusqu'à ce qu'il perdît son focus. Il perdit son attente. Et les Écritures disent, nous voudrions voir Jésus 26 février 1957 p. 21 mais maintenant, pendant qu'il est ici opérant avec son Église sous la forme de l'Esprit. Alors, si son Esprit est avec nous, il agira exactement comme lui agissait lorsqu'il était ici sur terre. Cela vous fera agir de la même façon, parce que ce n'est plus votre esprit, c'est son esprit en vous. L'esprit de Christ en vous. Les choses que je fais. Celui qui croit en moi, Saint Jean 14, 12. Vous ferez aussi les œuvres que je fais. Voyez-vous? Nous ferons les mêmes œuvres. Nous aurons les mêmes pensées. Nous mènerons le même genre de vie. Si l'Esprit de Dieu est en vous, il vous fera vivre comme Christ. Vous serez comme Christ. À ce moment-là, vous devenez une épître écrite, lue de tous les hommes, Christ en vous, reflétant sa lumière en vous. De même que Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même, et que Christ reflétait Dieu à partir de son propre corps. Aucun homme n'a jamais vu Dieu, mais le Fils unique engendré du Père l'a fait connaître. Dieu était en Christ. Et ce qu'était l'attitude de Christ, c'était l'attitude de Dieu, parce que les deux œuvraient ensemble, l'esprit et la chair étaient unis. J'ai un sermon là-dessus, l'agneau et la colombe. J'aimerais aborder cela un soir, une de ces semaines. Maintenant, nous examinons ce qu'est l'attitude et ce qu'est la bonne attitude mentale. 1. Nous avons découvert qu'il n'y a qu'une bonne attitude et s'estère ce que Dieu pense et ses actions envers l'objet concerné. Nous découvrons que Jésus-Christ est venu sur la terre pour montrer au monde l'attitude de Dieu envers le monde, le pécheur et la semence de Dieu. 2. Nous découvrons que cette bonne attitude mentale produira ce qu'elle est censée produire. Nous avons examiné les Écritures et avons considéré une poignée des gens et avons étudié leur réaction envers la parole de Dieu. Leur réaction aux promesses de Dieu était leur attitude envers Dieu et sa parole, car il est la parole. Nous avons montré à travers plusieurs preuves infaillibles de l'Écriture que la bonne attitude mentale envers toute promesse de Dieu fera qu'elle s'accomplisse. Souvenez-vous du centurion romain qui a simplement dit « Prononcez simplement la parole et mon serviteur sera guéri ». Il a compris l'autorité et ainsi, il a reçu ce qu'il attendait. « Je suis la résurrection et la vie » 10 août 1952 AP 61 Il s'agit de votre attitude envers cela. Votre attitude envers le don de Dieu fera que vous obteniez ce que vous demandez. Comprenez-vous? Oh! Combien j'aurais aimé m'arrêter juste ici, frère Bose, et enfoncer cela pendant environ une demi-heure. Mais je n'y saurais pas le faire. Votre attitude, Dieu peut envoyer un don et peu importe ce que vous. Cela dépend de votre attitude envers le don. Considérez ceux qui le frappèrent au visage et qui crachèrent sur lui et tout. Là, il n'y avait aucune vertu. Mais une femme qui croyait la parole toucha le bord de son vêtement et fut guérie. Est-ce juste? Très bien. Cela dépend de ce que vous en pensez. Dieu envoie cela. Mais c'est votre attitude envers tout don divin qui détermine ce que vous en obtenez. Ainsi, il. En examinant Hébreux 11, et nous lisons plusieurs exemples des hommes et femmes qui ont montré la bonne attitude mentale envers la parole de Dieu et nous avons vu comment ils ont reçu ce que Dieu leur avait promis. Et cela nous amène au point numéro 3. Nous devons savoir pourquoi devons-nous avoir la bonne attitude mentale. Maintenant, il y a plusieurs raisons pour lesquelles nous devons exhiber une bonne attitude mentale envers la parole de Dieu. 1. Notre attitude produira un résultat. Cela dépend de l'attitude que nous adoptons. 2. Notre attitude n'émigre pas d'atmosphère, mais plutôt exprime l'atmosphère dans laquelle nous vivons. C'est l'expression de la nature de votre âme et ainsi, cela crée une atmosphère autour de vous, de ce que vous êtes. Vous êtes identifié par l'attitude que vous exprimez. 3. Et ainsi, vous êtes jugé, et sera jugé pour l'attitude que vous adoptez, envers les autres, et l'attitude vous adoptez envers Dieu. 4. Ainsi, votre attitude n'aimée vous affectera pas, mais aura un effet sur les autres. Laissez-moi relire dans Confirmant sa parole 26 avril 1965 p. 23. Mais avant de prier pour les malades, nous devons amener les gens dans une certaine attitude. C'est cette attitude qui amène toujours des résultats. C'est cette attitude que vous adoptez devant Dieu. Voici une femme qui a touché son vêtement, et elle a été guérie d'une perte de sang. Un soldat cracha sur son visage, et lui mit une couronne d'épines sur la tête, mais il ne sentit aucune vertu. Ça dépend de votre approche. Ce qu'il faut, c'est l'attitude. Et c'est ce qu'il faut ce soir, cher ami, il faut l'attitude. 24 Nous sommes, et nous croyons que nous sommes dans la présence de Jésus-Christ, mais c'est votre attitude qui produit les résultats. La mécanique est ici et la dynamique aussi. Si vous pouvez juste commencer, Dieu fera le reste. Maintenant, vous pourriez demander, pourquoi devrions-nous avoir la bonne attitude, Mais souvenez-vous, c'est l'attitude qui apporte les résultats. Si vous n'aimez vous approchez pas avec la bonne attitude, vous n'aimez recevrez jamais quelque chose de Dieu, à part la réprimande et la difficulté. Et c'est ainsi avec quiconque dans la vie. Vous savez tous, au sujet d'élever des enfants, c'est la première des choses que vous apprenez à vos enfants, c'est d'avoir la bonne attitude envers les autres et d'avoir du respect pour papa et maman, et l'autorité. Et c'est pareil avec Dieu. Le vieil adage dit, vous pouvez obtenir plus d'abeilles avec du miel qu'avec du vinaigre. Et les adages consistent à illustrer un truisme. Il n'y a personne que je connaisse qui voudrait qu'on les traite comme de la saleté, mais avec respect. Montrez du respect et vous recevrez du respect en retour. Montrez du mépris, et vous recevrez du mépris en retour. Vous récoltez ce que vous semez. Avoir des amis, vous devez montrer que vous êtes vous-même, amicaux. Regardez, si une personne est dans le besoin, il va demander poliment, je fais toujours ce que je peux pour les aider. Mais aussitôt, qu'ils deviennent stupides et commencent à demander, c'est alors que j'arrête et Néhémie les aide plus. Je l'ai expérimenté dans les champs de mission. Il y avait certains pasteurs, outre-mer, que nous aimions aider. Mais quand certains sont devenus stupides et ont commencé à demander, nous les avons aidés. En mettant fin à la compassion que j'avais à leur égard, et que je n'ai plus senti, pourquoi dois-je travailler à trois endroits différents pour les supporter? Quand l'amour divin est projeté 26 janvier 1957 SP, 19 alors. Quand vous devenez un fils ou une fille de Dieu, votre disposition change, votre attitude change, tout ce que vous êtes, vous regardez vers la vie et vers les autres changements. Vous n'êtes pas le seul, vivant sur cette planète, et la bénédiction que vous recevez de Dieu, affecte aussi les gens avec qui vous vivez. Quand vous êtes béni, vous devenez une bénédiction pour les autres. L'atmosphère de bénédiction sous laquelle vous vivez, Néhémie brille pas seulement sur votre tête. Si ce n'était pas pour les bénédictions de Dieu, brillant sur les élus, le monde entier serait sous la malédiction, juste en cet instant. Deutéronome 28 parle des bénédictions et des malédictions que nous pouvons nous attendre à recevoir, dépendant de notre attitude envers Dieu et sa parole. Si nous recevons et respectons Dieu et sa parole, nous sommes bénis. Mais si nous rejetons Dieu et sa parole, nous sommes maudits. Deutéronome 28, 1-2 Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage, lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Remarquez, qu'il nous est dit que, nous Néhémie les verrons même pas venir, jusqu'à ce qu'elles soient sur nous et nous aient emportés. Un jour, vous vous réveillez tous ensemble marcher comme vous le voulez. Ce sont les bénédictions de Dieu. Maintenant, je n'ai pas le temps de lire pour vous toutes ces bénédictions, mais ouvrez simplement vos Bibles à la maison et étudiez ce chapitre et voyez comment les bénédictions de Dieu concernent chaque aspect de la vie. Elles sont ainsi vôtres. Si vous écoutez attentivement ce que signifie faire usage de la diligence dans la prière, en prêtant attention à la parole de Dieu. Mais les vérités que détiennent ceux qui Néhémie les pratiquent pas sont les mêmes qui vous bénissent en les écoutant, et des malédictions, en Néhémie les écoutant pas. Deutéronome 28, 15 Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Vous voyez les résultats que vous obtenez quant à l'attitude que vous adoptez envers Dieu et sa parole. Maintenant, souvenez-vous, votre attitude crée une atmosphère ou un environnement. Dieu dans son peuple 27 février 1950 p. 20. Votre attitude envers le don déterminera votre guérison. La résurrection de Lazare 13 août 1950 p. 43. Eh bien, Marie savait que si Dieu avait été dans Élisée, il était certainement dans son fils. Alléluia. C'est-à-dire vrai. Là, Marie s'est-elle dit, si seulement, je peux arriver auprès de Jésus. Je saurai pourquoi mon frère est mort. Elle a donc vite traversé cette foule d'incroyants. Quand elle est arrivée là où il était. Maintenant, écoutez, Esther comme. Attentivement maintenant. Je vais terminer d'ici peu. On dirait qu'elle avait le droit de le réprimander. N'est-ce pas? De lui demander. Pourquoi n'es-tu pas venu auprès de mon frère? De le gronder. Disant, pourquoi n'es-tu pas venu auprès de mon frère? Si elle avait abordé la chose dans cette attitude-là, elle aurait. Ce miracle n'aurait jamais eu lieu. C'est-à-dire votre attitude, votre approche, qui compte. Comment vous abordez quelque chose? Si vous venez. C'est-à-dire comme le don ici. Il vous faut l'aborder correctement. Il vous faut vous approcher de Dieu. Correct. Vous, Néhémie, pouvez pas venir et dire, maintenant, Seigneur, écoute donc. Je suis un très bon gars. J'ai reçu quelque chose d'occasion. Mais je t'assure, je veux que tu me prennes ce soir et que tu dises, non, non. Dieu n'accepte pas cela comme ça. Suivez la voie pourvue par Dieu. Sinon Néhémie venait pas du tout. C'est exact. C'est vrai. Le souper des noces 6 octobre 1956 p. 35. Dieu a besoin d'une église sur laquelle il peut placer ses mains. Peu m'importe combien elle est petite. Là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Non pas simplement parler de cela. Alors, vous direz, eh bien, nous nous rassemblons en son nom. Prononcer le nom de Jésus littéralement, ce n'est pas tellement ce qu'il voulait dire. Il s'agit de l'attitude que vous affichez quand vous êtes assemblés et l'environnement du nom de Jésus. Lorsque vous vous rassemblez en mon nom, alors demandez ce que vous voulez. Il s'agit du motif pour lequel vous venez. L'attitude. Il s'agit de l'attitude plutôt que le simple fait de citer un nom. Les pécheurs citent ce nom dans la rue. Le maudit c'est tout. Mais il s'agit de l'environnement dans lequel vous vous trouvez. L'attitude que vous affichez. Lorsque vous venez au nom de Jésus. Frère Branham dit dans sa prédication. Nous voudrions voir Jésus 27 juin 1962 p. 15. Cela dépend des attitudes que nous adoptons. Maintenant, Dieu envoie toujours ses dons et tout, dans les générations, dans les églises, et les gens reçoivent les résultats, selon leur attitude. Nous le savons. Dieu n'aime pousse personne, vous devez le désirer. Et dans la prédication, Dieu dans la simplicité des 7 mars 1963 m30. Il dit, quand un ministre entre dans une congrégation des gens, en prière, sous l'onction de l'esprit, vous allez écouter le ciel. C'est tout. Il n'y a pas moyen de s'en empêcher. Mais quand vous entrez dans la confusion, alors vous êtes confus, l'esprit est attristé. Vous obtenez ce à quoi, vous vous attendez. Si vous venez à l'église, pour entendre Dieu, vous l'entendrez, Mais si vous venez pour trouver quelque chose à critiquer, vous en trouverez aussi. Ainsi, vous voyez l'importance de notre attitude et de l'atmosphère qu'elle crée. Et comme je l'ai mentionné le soir dernier, nous créons une atmosphère par l'attitude que nous exprimons, par notre langage corporel, et la tonalité de notre voix, et la manière de regarder, la manière selon laquelle nous nous tenons. Langage corporel veut dire quelque chose pour les gens, et signifie quelque chose pour Dieu. Cela exprime notre attitude. C'est une expression de la vraie nature de notre âme. Confirmant sa parole 26 avril 1965 p. 23 Sester, cette attitude qui amène toujours des résultats. Sester, cette attitude que vous adoptez devant Dieu. Voici une femme qui a touché son vêtement, et elle a été guérie d'une perte de sang. Un soldat cracha sur son visage, et lui mit une couronne d'épines sur la tête, mais il ne sentit aucune vertu. Ça dépend de votre approche. Ce qu'il faut, c'est Sester l'attitude. Et Sester ce qu'il faut ce soir, cher ami, il faut l'attitude. 24 Nous sommes, et nous croyons que nous sommes dans la présence de Jésus-Christ, mais Sester votre attitude qui produit les résultats. La mécanique Sester ici et la dynamique aussi. Si vous pouvez juste commencer, Dieu fera le reste. Maintenant, que veut-il dire par si vous pouvez juste commencer? Je crois ce qu'il essaie de dire Esther que ce n'est pas que vous pouvez produire quoi que ce soit, mais si vous faites et dites la chose juste, cela produira les bons résultats. Vous voyez, Dieu le fera pour vous, si votre attitude est bonne. Après tout, Dieu est souverain et il n'est pas obligé de faire quoi que ce soit pour quiconque. Mais si vous allez vers lui, avec une bonne attitude, alors demandez ce que vous voulez. Jean 15, 5 Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous n'avez pouvez rien faire. Dieu dans son peuple 27 février 1950 p. 3 Et puis, comme je vous apporte Christ, il sera entre vos mains. Et vous aurez à répondre pour la position que vous aurez prise vis-à-vis de cela, si vous avez rejeté cela ou si vous avez accepté cela. Dieu vous fera répondre pour votre attitude envers cette réunion. Ainsi, vous devez comprendre qu'il s'agit d'une chose très sacrée. Et non seulement que vous recevez ce que vous attendez, mais vous serez aussi jugé pour votre attitude. C'est Esther l'attitude qui montre qui nous sommes, et vous serez jugé pour cela. Et vous prendrez votre attitude avec vous, parce que votre attitude est l'expression de votre caractère. C'est une expression de votre corps, de la nature de votre homme intérieur. Et pour cela, vous serez jugé. En clôturant, révisons. 1. Notre attitude produira un résultat. Cela dépend de l'attitude que nous adoptons. 2. Notre attitude n'émet crée pas d'atmosphère, mais plutôt exprime l'atmosphère dans laquelle nous vivons. C'est l'expression de la nature de votre âme et ainsi, cela crée une atmosphère autour de vous, de ce que vous êtes. Vous êtes identifié par l'attitude que vous exprimez. 3. Et ainsi, vous êtes jugé, et sera jugé pour l'attitude que vous adoptez, envers les autres, et l'attitude vous adoptez envers Dieu. 4. Ainsi, votre attitude n'aimée vous affectera pas, mais aura un effet sur les autres. Inclinons nos têtes pour la prière. Père, nous te remercions pour tes paroles, sachant que l'attitude que ton Fils a adoptée, Sester ce que nous voulons. Puisse notre attitude être celle de ton Fils, Jésus, qui est à dédié et consacré qu'elle se marie à notre attitude, et ainsi, jusqu'à ce que tu nous prennes dans l'enlèvement. Ce sermon a été traduit en langue française par le frère Bilvenga, bilvenga@yahoo.fr. C'est Grace Fellowship Tabernacle, Ohio, USA.